Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour, voici votre rendez-vous hebdomadaire avec le carnet de région, une émission réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. C'est encore une fois Radio Grille Ouverte à Alès qui assure la rédaction en chef de ce magazine régional. Au sommaire de cette édition, la réforme territoriale et son impact sur les politiques des villes, avec l'exemple de Ganges. Europe encore et toujours à l'occasion de la visite du pape François au Parlement européen. Visite commentée par un député européen nîmois. Piqûre de rappel, le 1er décembre est déclarée journée mondiale de lutte contre le sida. Malgré les difficultés du secteur oléicole, nous irons à la rencontre d'un centre d'oléothérapie en cœur d'Hérault. Puis nous découvrirons dans les Corbières une masterclass de boucherie. La réforme territoriale impacte fortement les politiques des communes. Exemple avec la ville de Ganges. Cette ville du Piémont Sévenol Héraultais a lancé depuis l'arrivée de Michel Fratissier à sa tête en 2011 de grands travaux pour rénover son vieux centre. Réélu au printemps dernier, le maire espérait bien continuer ses grands travaux. Oui, mais voilà, entre-temps, la réforme territoriale, les incertitudes de budget et la frilosité des promoteurs ont fait que le projet est aujourd'hui à l'arrêt. Michel Fratissier, au micro de Rémi Goujon, s'explique sur les difficultés de ce projet, mais également sur les motifs d'espoir pour sa ville de Ganges.
On en est que, si vous voulez, c'est entre inquiétude et espoir. Je vais vous dresser un bilan assez large sur la commune. Mes inquiétudes sont celles de la réforme territoriale. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le département qui était notre premier partenaire, hein, notre premier financeur, et là, moi, je rejoins tout à fait André Vizinet sur les inquiétudes qu'il a par rapport à la réforme, même si malheureusement, le président quitte ses fonctions dans quelques mois. Moi, je l'ai toujours soutenu parce que le département est un outil essentiel de proximité du territoire. Si le département est amené à disparaître, il faudra bien le remplacer par quelque chose. Or, l'État est en train à la fois de nous demander plus sur notamment un certain nombre de questions liées à l'école, par exemple le périscolaire, et d'autre part, il nous enlève des dotations globales. Donc c'est quand même assez étonnant de voir un État qui, d'un côté, nous retire de l'argent, nous enlève notre principal partenaire et est de plus en plus exigeant par rapport à des services que l'on n'en rendait pas avant et qu'on est obligé de rendre. Donc ça, c'est une inquiétude. L'autre inquiétude, c'est que la situation économique de la France, elle touche bien entendu le Languedoc-Roussillon, particulièrement aussi l'Hérault. Et Ganges n'est pas exempt de cette situation difficile. Donc ce qui nous inquiète, c'est qu'on a fait venir pas mal de promoteurs immobiliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la restructuration lourde du centre-ville intéresse des promoteurs immobiliers. Mais à cette hauteur-là, pour l'instant, ils ont laissé la question en suspens. Donc on est en train de réajuster un petit peu notre point de vue. Il est possible que sur le derrière les râles, sur le centre-ville, on soit obligé de démolir nous-mêmes une partie des biens qu'on a achetés pour recréer un espace public. Donc là, ce n'est pas la même chose parce qu'au départ, on devait vendre ces biens. Là, on ne va pas les vendre et en plus, on va démolir, donc ça va nous coûter. Et puis l'espoir, même si ça m'attire quelques foudres, mais j'ai une réunion avec les commerçants dans quelques jours, c'est que moi, je suis un maire qui, aujourd'hui, reçoit beaucoup de promoteurs avec de grandes enseignes, y compris des enseignes internationalement connues. Donc moi, je ne peux pas faire l'impasse sur des créations d'emplois autour de 50, 60, 70, 80, puisqu'en ce moment, on est sur 3-4 gros dossiers qui nous permettraient à terme de créer entre 60 et 70 emplois. Même si j'ai conscience que ça ne va pas faciliter la dynamique du centre-ville.
C'était un sujet de Rémi Goujon de Radio Escapade. Je veux que l'Europe retrouve sa jeunesse d'esprit qui l'a rendue féconde. Cette phrase fut la conclusion du discours du pape François lors de son intervention mardi au Parlement européen de Strasbourg. Au cœur des institutions européennes, le souverain pontife a insisté sur la dignité humaine, l'accueil des migrants ou encore la jeunesse. Le député européen Franck Proust, premier adjoint au maire de Nîmes, a assisté à ce discours avec émotion, comme il le déclare au micro de RCF Maguelone Hérault.
Depuis 88, dernière visite d'un pape, Jean-Paul II en l'occurrence, on n'avait pas eu un pape présent dans l'hémicycle, et on a vu à la fois le pape, mais également le chef d'État du Vatican, qui a prononcé un discours politique, l'institution européenne qui doit retrouver son identité. Il a même comparé à un moment donné l'Europe à une grand-mère un petit peu affaiblie, donc il l'a exhorté à devenir en quelque sorte une référence pour l'humanité. Et puis après, il a beaucoup insisté, bien sûr, sur la dignité humaine par rapport au problème d'immigration, mais en étant aussi réaliste, parce que il a dit il ne faut pas que la Méditerranée devienne un cimetière, faisant allusion au drame de Lampedusa, mais d'un autre côté, il a dit attention, ça c'est la conséquence, il faut travailler sur la cause, parce que si ces gens-là prennent le bateau pour fuir de leur pays, c'est bien qu'il y a un problème dans leur pays. Après, il a beaucoup parlé d'économie notamment, en disant que l'homme devait être au cœur du système pour faire en sorte qu'il ne soit pas considéré comme un pion appartenant à un système, puisque à partir du moment où on le considérerait comme un pion, dès qu'il ferait plus partie avec efficacité du système, alors il a parlé notamment des personnes âgées, des handicapés, des enfants, eh bien cette société aurait tendance à écarter du chemin toutes ces personnes qui pourraient pas rentrer dans le moule. Sur les problèmes environnementaux aussi, il a beaucoup insisté en disant qu'on devait préserver notre nature parce que l'homme faisait partie intégrante de cette nature. Donc c'est un message d'espérance, un message d'encouragement, bien sûr de paix, où il a incité l'ensemble des Européens à travailler ensemble et en insistant sur un avenir qui consisterait à reprendre les fondamentaux, c'est-à-dire à cette capacité de travailler ensemble et de favoriser la paix, mais basée sur une relation de confiance, une relation de confiance en l'homme avant tout. Et il a terminé en disant que l'unité d'un peuple, c'était pas forcément l'uniformité, voilà, et qu'on devait vivre ensemble tout en respectant les identités de chacun. En tout cas, un très beau message qui a été, si vous avez vu les images, très longuement applaudi par l'ensemble du Parlement.
Donc vous l'avez dit, c'est avant tout un message, mais après, qu'en est-il réellement de la pratique de la politique européenne ?
Vous savez, la pratique de la politique européenne, elle se fait au quotidien, mais je trouve que de voir des personnages, qu'ils soient des personnages politiques, religieuses ou autres, venir, on a eu un prix Nobel de la paix à la session dernière, je veux dire, ça permet de reposer parfois la politique sur des fondamentaux, mais bon, de temps en temps aussi, le Parlement, on revient à des choses terre à terre. Vous savez, dès demain matin, je rencontre le commissaire européen sur le commerce international pour défendre mes pêcheurs de Méditerranée ou d'Atlantique parce que les pêcheurs de thon sont en danger face à un accord avec les Philippines. Je veux dire, il y a un moment donné où il y a une philosophie politique qui est tracée, mais nous, on est des représentants du peuple pour défendre aussi les intérêts au quotidien. Et donc, c'est un peu comme en économie. Parfois, vous avez des visions macroéconomiques et d'autres microéconomiques. Mais de temps en temps, ça fait du bien, je pense, à l'ensemble de la classe politique, des 28 États membres, et bien d'entendre des discours un peu comme ça de haut niveau et qui permettent de nous guider dans nos décisions quotidiennes.
Le député européen Franck Proust était interrogé par Lauriane Avard pour RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, lundi 1er décembre, Radio Intervalle s'est rendu au centre hospitalier d'Alès pour y rencontrer Dominique Bastide, chef du service consultation et responsable du centre de dépistage anonyme et gratuit. Dominique Bastide évoque successivement au micro de Gaëtan Hugon la situation de la maladie en France aujourd'hui, les conditions d'accueil au centre de dépistage et les moyens de prévention actuels contre une contamination toujours trop active.
C'est une manifestation qui est organisée à l'occasion de la journée mondiale du sida. C'est une journée qui est organisée le 1er décembre de chaque année depuis de très nombreuses années et qui, cette année, donc, a pour terme zéro. Donc zéro nouvelle contamination par le VIH, zéro décès par le VIH et zéro discrimination. Nous allons organiser tout simplement, nous, un stand dans le hall de l'hôpital à Alès, proposer donc au public, hein, qui passera dans le hall, de l'information, des messages pour ce qui concerne le dépistage, la prévention, et bien sûr, présenter le centre de dépistage par la même occasion. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a actuellement autour de 7000 nouveaux cas d'infection à VIH par an en France. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce chiffre ne baisse pas ces dernières années. Donc on a l'impression d'être sur un plateau stable. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire en termes de prévention, et notamment de prévention ciblée, hein, vers les personnes les plus à risque. Je pense en particulier aux personnes gays ou aux HSH, hein, aux hommes ayant des rapports avec les hommes, qui manifestement sont encore très touchés par ces nouveaux cas de contamination. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire, hein, sur l'information, sur la prévention et sur le dépistage précoce. Ces centres de dépistage existent, hein, dans la plupart des hôpitaux. Il y a certaines structures qui existent hors hôpital également. Donc la mission, c'est d'informer, de dépister et de réorienter éventuellement les personnes donc, sur le VIH et les hépatites, puisque la compétence des CDAG a été étendue à l'hépatite. Et on est aussi centre d'information, de dépistage et de traitement des autres IST. On parle beaucoup de VIH, mais il ne faut pas oublier les autres IST, hein, infections sexuellement transmissibles. Il y a une recrudescence en particulier de la syphilis, hein, actuellement. Voilà, donc ce centre est à la fois un lieu d'accueil, d'information, de dépistage et de traitement. C'est anonyme, c'est gratuit. Les mineurs sont accueillis sans autorisation parentale et sans aucun justificatif d'identité. Les personnes sont accueillies par du personnel formé. Et donc le test classique consiste en une prise de sang, hein, tout simplement. Donc le résultat est rendu entre 3 et 5 jours plus tard. Voilà. Alors il existe une deuxième façon de faire un test dans ces centres, c'est ce qu'on appelle le TROD. C'est un test rapide, hein, d'orientation diagnostique. Donc ces TROD sont faits à partir d'une goutte de sang qui est obtenue au bout du doigt par une petite piqûre, hein, qui est indolore. Et l'intérêt, c'est que le résultat est rendu très rapidement, donc quasi immédiatement, puisqu'il faut maximum une demi-heure, hein, pour avoir ce résultat.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les moyens de prévention ?
Le discours, on va dire, sur la prévention a été longtemps réduit au préservatif. Quand on voit qu'il y a toujours 7 à 8 000 nouvelles contaminations par an, on se rend compte que ce n'est pas suffisant, que le préservatif n'est probablement pas le seul moyen. En tout cas, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas efficace. Donc aujourd'hui, on a une approche plus globale, hein, de la prévention, des messages de prévention. C'est ce qu'on appelle la prévention combinée, c'est-à-dire le préservatif, bien sûr, masculin et féminin. Et on essaye de compléter, en fait, ce dispositif par d'autres approches. En particulier, donc, le traitement de toutes les personnes porteuses du VIH et le plus précocement possible. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on parle pas mal ces derniers temps. Il y a une certaine efficacité, c'est la prise d'un médicament anti-VIH en prévention. Ça, ce sont des pratiques qui vont concerner principalement les groupes à très haut risque, hein, de contamination. C'est une molécule, hein, qui est utilisée encore en étude, hein, mais qui semble montrer une efficacité réelle.
C'était un reportage réalisé par Gaëtan Hugon de Radio Intervalle. Il y a 2 semaines, nous vous parlions dans ce même carnet de région d'équithérapie. Aujourd'hui, il sera question d'oléothérapie, et ce, malgré la mauvaise récolte qui s'annonce dans le secteur oléicole régional. Prenons la direction du petit village de Saint-Privat, en cœur d'Hérault. C'est là que Raphaël Colicci et son épouse Babette ont créé Oléa Terme, un centre d'oléothérapie sur un vaste domaine au milieu des oliviers. Un domaine qu'ils ont créé il y a 20 ans dans un esprit de résistance et d'éthique sur lequel revient aujourd'hui Raphaël.
C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on se bat pour l'agriculture, on se bat pour qu'il y ait une éthique dans la marche d'une entreprise, pour que... Il y a des créations d'emplois dans la ruralité et donc nous avons valorisé l'olivier au mieux. Nous avons fait le premier centre d'oléothérapie au monde. On a trouvé des actifs importants, on a créé 3 brevets, et là un 4e en ce moment sur la grenade. Voilà, on est fiers de mettre en avant le potentiel qu'a l'agriculture pour soigner les gens, pour qu'ils soient bien. On est heureux aussi d'avoir développé ce côté touristique, hein. Les gens viennent faire des cures chez nous, du nord de la France, du nord de l'Europe. Ce sont autant d'ambassadeurs de notre territoire. Par ailleurs, je me déplace un peu partout pour faire des conférences, pour vanter les mérites de toute cette biodiversité et de notre territoire. C'est vrai que c'est un combat au quotidien, surtout quand on innove, surtout quand on veut remplacer la pétrochimie, les polluants importants dans l'agriculture, quand on veut que l'environnement reste sain et quand on veut sauvegarder en fait la planète.
Au-delà des seuls oliviers, leur volonté est de préserver la biodiversité dans une propriété qui comprend plus d'un millier d'arbres fruitiers, dont des espèces oubliées ou menacées de disparition.
Oui, non seulement on préserve la biodiversité, mais cette biodiversité est une richesse économique. Je viens de créer, après 10 ans de bataille, la filière grenade qui a eu un énorme succès. Nous avons créé une 20aine d'emplois partiels et peut-être totaux par la suite. Et là, je prépare la prochaine filière, un citron, le yuzu, hein, qui est très demandé par les chefs. Et pourquoi on le fait venir depuis 20 000 km du Japon, alors qu'on peut le cultiver ici? On a trouvé les moyens. Et en ce moment aussi, je prépare une autre filière qui est la filière des pommes à chair rouge, donc pleine d'anthocyanes, pleine de polyphénol, et très utile pour être à l'avant-garde de la prévention contre toutes les maladies dégénératives qui nous guettent et qui sont en train d'augmenter à cause de la pollution. Et je suis en train de constituer à l'heure actuelle des sentiers de culture où il y aura une façon d'apprendre la biodiversité cultivée, sur la biodiversité sauvage, sur les plantes médicinales. Comment ? Eh bien, chacun va prendre ce qu'il a besoin pour que dans sa vie, il soit un peu plus autonome et non pas ficelé, les mains ficelées face à la mondialisation de la malbouffe. Donc, pouvoir prendre en main déjà sa santé. L'État abandonne tout ce qui n'est pas rentable. Et heureusement qu'il y a le milieu et les réseaux associatifs pour s'occuper de la biodiversité. Ce qui me fait rager et ce qui me motive chaque jour, c'est que des jeunes sont sans emploi, des jeunes qui veulent bien faire mais n'ont pas les moyens, n'ont pas la terre. Alors j'essaye de mettre en adéquation des hommes avec des projets, un terrain qui leur convienne et des débouchés surtout.
C'était un sujet d'Alain Mendez pour Radio Lodève. Avec RCF Pays d'Aude, partons maintenant à la découverte du centre de formation des apprentis de Lézignan-Corbière dans l'Aude, où les jeunes apprentis bouchers recevaient mardi dernier François Mulette, sacré meilleur ouvrier de France, pour une journée de masterclass.
Le centre de formation des apprentis de Lézignan accueillait mardi dernier un meilleur ouvrier de France pour une masterclass assurée auprès des apprentis bouchers. L'initiative vient du syndicat audois de la boucherie, friand de formation continue, Christian Auriol, son président.
Or la formation, ça passe d'abord par l'apprentissage, à travailler en partenariat avec le CFA, la chambre de métiers. Nous sommes quand même la première profession qui remplit le CFA depuis d'autres années et on continue à le remplir parce qu'il y a une demande assez importante sur le métier. On va envoyer les jeunes d'une classe du CFA au château d'agriculture avec une visite, une formation à l'école de la boucherie aussi. Ils veulent aller visiter Rungis, ils veulent aller visiter une boucherie parisienne pour voir le contexte économique à Paris. Bon, tout ça, on est là pour les aider, tout ça, pour les mettre en musique, mais pour les accompagner peut-être.
Au CFA de Lézignan mardi, à la baguette de cette masterclass, c'était François Mulette, meilleur ouvrier de France et formateur à l'École nationale des métiers de la viande.
Le programme qui était prévu pour cette journée, c'est la découpe d'un demi-veau. Alors, découpe conventionnelle, la découpe qui correspond à tous les examens, hein, c'est-à-dire CAP, BP. Nous formons à cette découpe qui est basée sur toutes les bases anatomiques, bien sûr, sur toute la rationalité commerciale du produit et surtout, bon, on ne veut pas non plus aussi, c'est ce que j'aurais dit ce matin, déroger aux coutumes régionales. C'est-à-dire, ici, il y a une identité, faut la garder. Les chefs d'entreprise veulent couper la viande d'une façon, on n'ira pas contre du tout.
Pour le CFAI de Lézignan, l'intervention d'un MOF auprès des apprentis bouchers répond à de grandes ambitions pédagogiques, avec entre autres ces nouveaux bâtiments dont la construction vient de commencer, un chantier d'un montant de 13 millions d'euros.
Nous avons déjà dans cette maison, puisque nous faisons un nouveau pôle alimentaire, et notre parrain, c'est quand même quelqu'un qui est très connu et qui est également MOF, c'est Monsieur Gilles Goujon, et donc... Quand il y a l'excellence qui veut rentrer dans cette maison, c'est à bras ouverts que nous les accueillons. Et bien entendu que si dans d'autres métiers, on peut faire la même chose, nous le ferons et avec grand plaisir.
Et les apprentis dans tout ça, ravis, sages et impressionnés par le formateur.
Avec ce que Monsieur Mulette nous a montré, on va pouvoir accroître notre savoir-faire dans le métier de boucher. Et puis en même temps, qu'il nous fasse de la pratique, il nous fait aussi de la théorie. Donc c'est bon, ça, on apprend de tout en même temps.
Comment c'est organisé
Oui, on a chacun une mallette qui est donnée par le CFA, qui comprend les couteaux de base, un trancheur, un éplucheur, un désosseur avec un fusil. Ce matin, il a fait le plus gros. Et après, nous, il nous a expliqué chaque morceau particulièrement. Et on a essayé de le reproduire, mais bon, c'était un peu dur. C'est même des gestes qu'on sait, mais c'est la même façon de faire, mais le résultat, il est pas le même du tout.
Je pensais un peu comme Kevin, mais c'est la précision, ça m'a vraiment étonné. Autant de précision, ça... Oh.
Prochain rendez-vous exceptionnel pour les apprentis bouchers de Lézignan. Ce sera le Salon de l'agriculture, en fin janvier 2015.
C'était un reportage carnet de Nathalie Dessauce pour RCF Pays d'Aude. Ce carnet de région se referme, il se rouvrira dans une semaine avec Radio FM+, pour rédacteur en chef. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Carnet de région est une émission produite et réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Rendez-vous même lieu, même heure la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.